des arbres.
Il est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et pour dénoncer des mesures sanitaires qu'il juge trop peu efficaces, le syndicat d'enseignants SNUP FSU appelle à la grève le 13 janvier prochain, jeudi prochain. Ça va compliquer une situation qui l'est déjà, vous allez entendre dans un instant une responsable de ce syndicat. L'annonce de cette grève a été faite après que le protocole sanitaire dans les écoles a été allégé. Ça commençait à devenir très compliqué. On va vous expliquer ce qui a changé et puis on entendra les réactions de parents d'élèves. Plus d'un million de tests par jour dans les pharmacies. On sera avec un représentant des pharmaciens qui nous dira si les officines vont pouvoir suivre ou pas. Marine Le Pen est à Béziers où elle a rencontré le maire Robert Ménard. C'est Victor Chabert qui suit ce déplacement pour Europe Midi. Et puis la tendance météo avec vous Marlène Duret. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle sont en alerte orange neige et verglas. Hein.
Absolument Romain, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle en raison d'un épisode neigeux assez bref. Mais la neige va tenir au sol et cela peut engendrer des problèmes de circulation entre ce soir et demain matin. On attend 3 à 7 cm de poudreuse jusqu'à 10 cm localement sur les hauteurs et on fait bien sûr le point à la fin du journal.
Merci Marlène et à tout à l'heure pour la météo complète. Cette information donc tombée en fin de matinée. Écoutez bien, si vous avez des enfants scolarisés dans le primaire, ça risque d'être compliqué jeudi prochain. Le syndicat d'enseignants SNU, IPP-FSU, appelle à la grève le 13 janvier. Le syndicat dénonce les mesures sanitaires en raison du Covid dans les écoles, des mesures qui seraient trop légères pour assurer la sécurité sanitaire dans les classes. Écoutez Ghislaine David du SNUIP-FSU.
On appelle à la grève parce que depuis le début de la semaine, le protocole il est inapplicable dans les écoles et que les dispositions qui ont été prises hier et la réunion qui s'est tenue avec le ministre ne nous a pas rassurés sur la façon dont on va devoir appliquer maintenant le protocole parce que c'est très compliqué, c'est une vraie usine à gaz avec des classes qui se vident d'élèves, mais des écoles qui se vident d'enseignants. Nous demandons à revenir à la règle qui était en vigueur jusqu'au début décembre de fermeture de classe à un cas positif d'élève parce que selon nous, elle permet de sécuriser la classe. Ça évitera aussi la contamination d'autres classes dans l'école.
Alors il y a d'un côté ce syndicat d'enseignants qui dénonce un protocole sanitaire trop léger et de l'autre des familles qui disent que c'est trop lourd, avec trop de tests, que c'est trop compliqué. Céline Géraud, les familles ont été entendues par le ministre de l'Éducation qui a allégé légèrement, sensiblement ce protocole. Alors qu'est-ce qui a été modifié? Expliquez-nous.
Alors Romain, au premier cas positif déclaré dans une classe, tous les élèves cas contact devront toujours effectuer le parcours complet, un test PCR ou antigénique, puis un autotest à J+2, J+4 pour pouvoir continuer à suivre les cours en présentiel. La nouveauté, il ne sera désormais plus obligatoire pour les élèves d'enchaîner 3 tests lors d'un nouveau cas positif qui est détecté dans la classe dans un délai inférieur à 7 jours. Pas de fermeture de classe, donc dès que l'on atteint un cas, 2 cas, 3 cas de Covid, mais seulement en fonction d'un très grand nombre de cas, selon l'Éducation nationale. D'ici la fin du mois, des stocks de masques chirurgicaux FFP1 seront distribués à tous les personnels enseignants en attendant un avis des autorités sanitaires pour privilégier plutôt les masques FFP2, plus efficaces contre ce virus galopin. Un chiffre, il y a quelques minutes, Santé publique France a réactualisé ses données. Près de 410 000 personnes ont été testées positives sur la seule journée de lundi, du jamais vu. Un nombre de cas qui a naturellement explosé après le week-end du Nouvel An. Et beaucoup ont voulu se faire confirmer le test par un PCR ou un antigénique. Et il y a actuellement, Romain, 9 202 classes fermées. C'est 3 fois plus qu'avant les vacances de Noël.
Merci beaucoup Céline Géraud. Avant d'être avec Gilles Demarquet de l'association de parents d'élèves Appel, on va partir dans le nord à Lille, retrouver Maximilien Carlier qui est allé à la sortie d'une école lilloise. Comment réagissent les parents, Maximilien ?
Eh bien Romain, à la sortie des classes de cette école lilloise, j'ai rencontré Fanny qui est venue récupérer sa fille de 3 ans. Fin de semaine, assez mouvementée.
On a reçu un message indiquant qu'il y avait un cas positif dans la classe de Zoé. Du coup, on a été informé qu'il fallait faire un test antigénique ou PCR pour qu'elle puisse retourner le lendemain en classe, donc du vendredi. Donc on prend le bas de combat pour trouver une pharmacie pouvant faire des tests sur les enfants et pouvant donner les résultats rapidement, donc forcément antigénique. De là, l'école nous explique bien qu'il faudra faire un test à J J+2 donc samedi et un test à J+4 donc lundi.
Trois tests au total en 5 jours. La galère, on s'adapte, explique-t-elle. Ajoute à cela une déclaration sur l'honneur à donner à l'institutrice lundi. Alors même si cette maman voit bien que le protocole a été allégé, on voit bien aussi qu'elle a du mal à suivre.
C'est assez perturbant, on s'y perd un peu. Mais en même temps, tout change tellement vite avec ce virus, du coup avec cette pandémie, avec ce Covid.
Mais pas le choix, pour mettre son enfant à l'école, il faut que sa fille effectue cette batterie de tests. L'autre solution, eh bien, c'est l'isolement, 7 jours, mais les deux parents travaillent ou télétravaillent. Et puis, avec la multiplication des cas positifs, cette maman ne se voit pas garder sa fille jusqu'aux prochaines vacances.
Merci beaucoup Maximilien Carlier. On est en direct avec Gilles Demarquet de l'association de parents d'élèves Appel. Bonjour Gilles Demarquet.
Bonjour Madame.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Déjà un petit commentaire avant de parler du protocole sanitaire sur l'appel à la grève. Appel à la grève des professeurs du primaire. La rentrée est très compliquée. La situation dans le pays est compliquée. Franchement, est-ce que c'est le moment de faire grève selon vous ?
Écoutez, il n'est pas de mon ressort de me prononcer sur la nécessité ou non d'une grève, bien évidemment. Ce n'est pas ma responsabilité, la responsabilité de l'association de parents d'élèves. Je comprends les difficultés qu'ont les enseignants. On a actuellement des protocoles qui sont compliqués, toujours compliqués quand ils arrivent, qui nécessitent de la communication, qui nécessitent de la pédagogie, et ça demande du temps. Actuellement, il y a une petite simplification qui a été faite et qui me semble être une mesure de bon sens.
Oui.
Ensuite, il y a des difficultés qui subsistent, c'est-à-dire que votre interlocutrice interviewée juste avant l'a bien dit, il y a un déport sur les parents de la responsabilité du test. Parfois, comment est-ce qu'on va faire pour tester les enfants lorsque l'on travaille, surtout si on a plusieurs enfants à tester à des jours différents. On a bien vu quand on se promène en ville qu'il y a de longues files devant les pharmacies. Comment faire lorsqu'il faut faire une file de 200 mètres? Donc ça veut dire que ça prend du temps. Peut-être qu'il faut envisager d'avoir des files prioritaires dans les pharmacies pour les enfants qui seraient cas contact et qui auraient besoin de se faire tester pour pouvoir retourner à l'école.
C'est vrai que c'est une bonne idée. On va être dans un instant avec un pharmacien. Tiens, je vais lui poser la question. Je ne sais même pas s'il est déjà en direct avec nous. Est-ce que vous nous entendez, Gilles Bonnefond?
Oui, je vous entends très bien.
Vous entendez Gilles Demarquet, des parents d'élèves. Est-ce qu'on pourrait imaginer une file prioritaire? C'est une bonne idée, ça, parce que c'est vrai que quand on est parent d'élèves, qu'on attend une heure, parfois une heure et demie, c'est pas de votre faute, hein, monsieur le pharmacien Gilles Bonnefond. Mais est-ce que ça pourrait être mis en place, ça, la file prioritaire?
C'est compliqué, parce que prioritaire quand on est cas contact, prioritaire quand on est symptomatique, c'est extrêmement difficile. Alors c'est vrai que le protocole qui vient de s'alléger, moi je partage l'avis du représentant des parents d'élèves, ça va simplifier un petit peu, parce qu'au moins les enfants vont venir qu'une fois dans la semaine se faire dépister quand ils sont déclarés contact. Il faut bien qu'ils utilisent l'autotest parce que c'est la garantie qu'ils n'attrapent pas le virus pendant cette période, et donc il faut bien se le faire expliquer pour être sûr de faire le bon prélèvement. Ça va alléger. Et puis, on espère aussi que cette épidémie Omicron, qui monte très vite, j'espère qu'elle redescendra aussi vite dans quelques temps.
On espère tous, oui.
Voilà, c'est 410 000 cas positifs. Il faut les dépister. Hein, la difficulté qu'on a avec les élèves, c'est que bien sûr, quand vous avez une classe et que vous êtes à côté de l'école, et tout d'un coup, vous avez 20-25 gamins qui débarquent en même temps avec des parents stressés, etc. Et ça, c'est... Alors, on est en train de travailler avec les pouvoirs publics pour voir comment on pourrait se faire aider par d'autres professionnels de santé sur des périodes avec des infirmiers, avec des kinés, avec des dentistes qui sont aussi autorisés à prélever.
Ça serait bien,
des retraités, voilà, pour accélérer et faciliter le dépistage quand il y a un cas dans une école.
Gilles Bonnefond de l'Union syndicale des pharmaciens, restez avec nous. Gilles Demarquet de l'association de parents d'élèves, ça pourrait effectivement peut-être alléger la situation, la simplifier. Le pharmacien à l'instant qu'on va retrouver nous disait que les parents sont stressés. C'est vrai que ça stresse les familles, forcément, ça, hein. La période.
Oui, mais je dirais qu'il faut aussi faire montre de flexibilité, d'adaptation. On sait qu'on est dans une situation de crise. Je dirais, à la limite, pardonnez-moi le langage, mais je pense qu'il faut essayer de rester zen et de faire le dos rond.
Oui.
Il faut montrer notre capacité de résilience. Je pense qu'il y a un point qui est important. On essaie de garder l'école ouverte. Je pense que c'est très intéressant et important pour les jeunes. On le voit... comment ça se passe dans d'autres pays où ça a été fermé pendant longtemps et les difficultés pour les enfants. Mmh. Et puis, on a aussi en France des tests gratuits comparés à d'autres pays. Donc, on a cette possibilité-là. Mais je vois des expériences intéressantes actuellement où, par exemple, dans certains établissements où il y a des difficultés de manque de personnel, où des parents se proposent pour aider à faire tourner la cantine, par exemple.
Oui, c'est bien.
Il faut aussi être solidaire, il faut aussi être fraternel. Et c'est important de se serrer les coudes en communauté éducative pour pouvoir passer cette crise du mieux possible.
Merci beaucoup Gilles Demarquet, merci d'avoir été avec nous. Je garderai vos bons conseils. On reste zen, on reste solidaire et fraternel. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Gilles Bonnefond, de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Vous faites combien de tests par jour actuellement dans toutes les pharmacies de France ?
1,2 milliard à peu près de tests par jour.
1,2 million de tests chaque jour en France, rien que dans les pharmacies, hein.
Rien que dans les pharmacies.
Mais ma question suivante, c'est vous allez tenir le rythme en termes de personnel et puis en termes, alors déjà d'effectifs, de fatigue, et puis est-ce que vous allez avoir assez de tests?
Alors, de tests antigéniques, on n'a pas de rupture aujourd'hui, heureusement, parce que c'est le test qui permet de faire le diagnostic. On a des tensions sur les autotests, hein, la grande surface en a pris un petit peu, et les fabricants sortant des fêtes de Noël recommencent à réapprovisionner. On est en train de voir avec les fabricants européens pour rapidement en avoir, mais les autotests, c'est un peu moins important. Ça permet de faire le suivi des patients contacts. On en a. Pas tout le monde, on se réapprovisionne. Ce qui est important, c'est les tests antigéniques. Il ne faut absolument pas qu'on soit en rupture, malgré de rythmes très, très, très soutenus. Et vous avez raison dans ce que vous avez dit tout à l'heure. On est le pays qui a une stratégie de dépistage très efficace. Et ça permet d'éviter des confinements, comme ont pu le faire d'autres pays, parce qu'on ne confine que des personnes qui sont dépistées positives. Et on a en plus un outil qui permet de concentrer toutes les informations, département par département, pour voir la circulation du virus. Et c'est très précieux, et il y a très peu de pays qui ont ça.
Merci beaucoup, Gilles Bonnefond. Merci d'avoir été en direct avec nous. Gilles Bonnefond, de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé il y a quelques instants. Il s'est presque justifié sur sa façon de parler. Vous savez, il a dit qu'il voulait continuer à... Je cite, bouchez-vous les oreilles, emmerdez les non-vaccinés. Voici ce qu'il a dit il y a quelques instants.
Il faut bien voir que ce ne sont pas des déclarations que j'ai faites, c'est dans un entretien de 2 heures avec 8 de nos compatriotes que l'un de vos confrères avait sélectionné. La totalité des gens avec qui je parlais étaient indignés à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner. J'avais face à moi 2 soignantes qui me disaient « Mais nous, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. » De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Je voyais des tribunes de médecins disant « Nous, on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés. » Et donc, on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Donc, il était, je crois, de ma responsabilité de sonner un peu l'alarme. C'est ce que j'ai fait cette semaine pour que les choses puissent avancer encore plus rapidement.
J'assume totalement, hein, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, il s'exprimait à côté de la présidente de la Commission européenne. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
À propos des non-vaccinés et du mouvement contre le pass syndical, manifestation demain, le pass sanitaire ou
vaccinal,
voilà. Manifestation demain donc contre le pass vaccinal, suivi de très près par la place Beauvau, par le ministère de l'Intérieur. Louis, surtout quelques jours après les propos d'Emmanuel Macron, qu'il assume donc, le chef de l'État qui a dit, ce sont ses mots, qu'il souhaitait emmerder les non-vaccinés. Ça veut dire que les services de renseignement suivent ça de très près, hein.
Oui, absolument. Et donc demain, il y a des manifestations qui pourraient rassembler autour de 40 000 personnes dans les rues. C'est une estimation, une anticipation des services de renseignement. 40 000 personnes, ça reste quand même peu de monde, mais c'est une légère hausse par rapport aux manifestations qui avaient lieu avant Noël. Alors dans le détail, à Paris, 6 manifestations déclarées avec des cortèges de gilets jaunes ou de militants contre le vaccin qui devraient grossir les rangs. Au total, en province, 144 actions sont prévues selon le service central du renseignement. renseignement territorial. Et selon nos informations, le dispositif des forces de l'ordre devrait être musclé, avec une difficulté majeure: éviter des images qui pourraient laisser entendre que l'État s'en prend physiquement à des manifestants. Pour terminer, la place Beauvau aura une vigilance toute particulière à Toulouse, Nantes, Metz, Rennes et Nancy, où des tensions sont redoutées. Certains manifestants ont bien l'intention d'aller au contact de la police et de la gendarmerie, surtout après les propos tenus par Emmanuel Macron, ce que vous venez de citer, que je n'oserais prononcer.
Évidemment, jamais dans votre bouche, bien sûr. Merci beaucoup, Louis Dragnel. 12h45, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la campagne présidentielle qui se poursuit, évidemment. Marine Le Pen est à Béziers. Elle a rencontré, elle est dans la ville de Robert Ménard. C'est Victor Chabert qui suit ce déplacement. Qu'a dit exactement Marine Le Pen? On va voir ça dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe.
Romain Desarbres.
Il est 12h47, la campagne présidentielle. Marine Le Pen est à Béziers aujourd'hui, chez Robert Ménard. La candidate du RN a défendu nos traditions et les racines chrétiennes de la France, en défendant par exemple la présence de la crèche dans l'hôtel de ville de Béziers. Victor Chabert, bonjour Victor.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est vous qui suivez ce déplacement de Marine Le Pen. Elle a également discuté avec le conseil municipal de la ville. Racontez-nous.
Oui, Marine Le Pen a aussi visité le chantier de l'école Samuel Paty dans un quartier prioritaire, les remparts de la cathédrale de Béziers, avant d'être reçue, vous le disiez, par Robert Ménard à l'hôtel de ville. La candidate du RN vient ici en terre favorable pour parler à son électorat, la France rurale, celle des villes moyennes. Le maire de Béziers lui a assuré de son soutien, et même s'ils disent avoir des désaccords, de son parrainage. Et Robert Ménard a ensuite précisé qu'il n'avait aucun ennemi à droite. Ce déplacement est aussi une façon pour Marine Le Pen de parler d'autre chose que de crise sanitaire. Plusieurs thématiques sont abordées, comme l'aménagement du territoire, le tourisme, l'agriculture. Cet après-midi, elle sera d'ailleurs avec des viticulteurs lors d'une visite d'une cave coopérative. Demain, elle se rend à Carcassonne et à Trèbes. Dans l'Aude, elle rendra hommage au colonel Arnaud Beltrame, assassiné par un islamiste lors des attentats qu'a connu la petite cité audoise en 2018, avant d'aller dimanche à Perpignan sur le thème de la sécurité et de l'immigration, en terre très très favorable.
Merci beaucoup Victor Chabert. La sécurité qui revient vraiment, à vous le voyez, sur le devant de la scène politique et le devant de la scène de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, lui, doit se rendre lundi à Nice sur le thème de la sécurité, une façon de reprendre en main cette thématique occupée par la droite, notamment avec le déplacement hier de Valérie Pécresse dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Le président de la République pourrait annoncer une nouvelle réforme de la police. C'est pour ça que vous êtes avec nous, William Molinier. Bonjour William.
Bonjour Romain.
Depuis plusieurs mois maintenant, des pistes de travail sont dans les cartons de la place Beauvau. Hein.
Oui, tout part de l'idée d'avoir, comme chez les gendarmes, un seul et même interlocuteur dans les départements, ce qui n'est pas le cas historiquement pour les policiers, qui dépendent à la fois du préfet pour l'opérationnel, mais aussi de leur direction centrale à Beauvau. Pas facile d'y voir clair pour les élus, d'où la volonté de Gérald Darmanin de créer des directions départementales de la police nationale, avec à chaque fois un commandement unique, donc, qui aurait autorité sur des filières métiers, la sécurité publique, le renseignement, la police aux frontières et la police judiciaire. C'est d'ailleurs là que ça coince le plus. La PJ, comme on l'appelle, est très attachée à son indépendance et à son autonomie. Plusieurs magistrats ont déjà fait part de leurs inquiétudes, tout comme certains syndicats de policiers, notamment à cause du calendrier, car Gérald Darmanin veut aller vite. Selon nos informations, 5 départements doivent expérimenter cette nouvelle organisation d'ici à la fin mars, pour une généralisation au 1er janvier 2023. Hors de question pour le gouvernement, évidemment, de voir des policiers mécontents dans la rue ces prochains mois, et donc des garanties leur ont été apportées. La réforme ne concernera ni le ressort de la préfecture de police à Paris, ni la lutte contre la criminalité organisée ou la délinquance spécialisée. Quant au grand service de renseignement intérieur qu'est la DGSI, elle restera elle aussi à part, puisqu'elle dépend directement du ministre de l'Intérieur.
William Molinier, merci William.
Europe Midi.
Des arbres vous informe sur Europe 1.
Il est 12h50. Écoutez, est-ce qu'il faut arrêter le Paris-Dakar? La question se pose, selon Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Oui, il dit que la question se pose de l'arrêt du Dakar. Il faut savoir qu'une enquête est ouverte en France après l'explosion qui a touché une voiture française fin décembre en Arabie Saoudite. Le pilote de cette voiture a été très grièvement blessé. Il a été rapatrié en France. Alors, faut-il arrêter le Dakar? Voilà ce qu'en dit ce motard amateur, Charlie Herbst, que Axel May a joint pour Europe 1.
C'est pas moi qui décide, moi je suis concurrent. Donc moi, de mon point de vue, j'ai envie de vous dire que j'ai pas envie que la course s'arrête parce qu'on s'entraîne toute l'année. C'est des gros investissements financiers, personnels, physiques, mentaux. Donc une fois qu'on y est et qu'en plus ça se passe relativement bien, on a envie de continuer, d'aller chercher la médaille qu'on espère. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment menacé? Est-ce que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer? Et auquel cas, bah, peut-être que malheureusement oui, pour la sécurité de tout le monde, mais pour l'instant, nous, on n'a pas d'informations là-dessus.
12h51, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on va parler du prix des mutuelles santé. Ça va augmenter, les tarifs vont augmenter. De combien? Pourquoi ça augmente? Quelles sont les mutuelles qui augmentent le plus? On va voir ça avec Carole Ferry. À tout de suite.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres. Bon.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, j'ai des nouvelles.
Des bonnes j'espère.
Eh ben non, en ce moment, les pommes de terre de consommation à chair ferme origine France, en filet de 3 kg dont 500 grammes offerts, sont à 2,49€.
2,49€ le filet de 3 kg de pommes de terre?
Ça revient à 83 centimes le kilo.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Prix normal pour 2,5 kg, 2,49€, soit 1€ le kilo. Catégorie 1, calibre 35-55, traitement antigerminatif après récolte, variété Jazzy, Charlène et Ousseltiane, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre? Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
Bienvenue aux gourmands qui pensent qu'il n'est jamais trop tôt pour se mettre au bio. Bienvenue à vous qui adorez le petit déjeuner, mais le préférez déjà tout prêt. L'année commence bio chez Picard. En ce moment, profitez de 50% de réduction sur le deuxième produit bio acheté avec la carte Picard et moi, parmi une savoureuse sélection de produits, comme nos 10 mini crêpes bio. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Europe Midi.
Des arbres.
Tout augmente, hein, tout augmente. Les prix du gaz, les prix de l'électricité et des mutuelles santé. Carole Ferry avec nous. Bonjour Carole.
Bonjour.
Les tarifs des mutuelles devraient augmenter cette année de 3,4%. C'est plus que l'inflation. Carole, comment ça s'explique déjà?
Eh bien, vous avez deux choses. D'abord, il y a eu beaucoup plus d'opérations en 2021. C'est logique, hein, avec le confinement, de nombreuses interventions avaient été repoussées en 2020, on s'en souvient. Ça a donc mécaniquement fait grimper les demandes l'année suivante. Selon la mutualité française, les remboursements de prestations de santé ont augmenté de 6% en un an. La deuxième chose, c'est le coût du 100% santé. Vous savez, l'optique, l'audio, les soins dentaires sont désormais mieux remboursés par les mutuelles. Et vous avez notamment un phénomène de rattrapage avec des gens qui renonçaient à ces soins auparavant. Les remboursements d'appareils auditifs, par exemple, ont augmenté de 73%. Tout cela donne donc une hausse de 3,4%. En moyenne, ça veut dire que dans le détail, la hausse sera beaucoup plus forte, jusqu'à 5,3% pour 5% de la population couverte par une mutuelle. 20%, au contraire, vont bénéficier d'un gel des tarifs. Une hausse qui arrive en tout cas comme un camouflet, on peut dire, pour le gouvernement, puisque le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait demandé cet automne aux mutuelles de ne pas augmenter leurs tarifs cette année en échange de la non-reconduction de la taxe Covid.
Carole Ferry, merci beaucoup Carole. Du football avec ce soir Bordeaux-Marseille à huis clos. Et puis, à propos de football, sachez que vous entendrez ce soir à 20h la première partie de l'interview de Michel Platini, réalisée par Jacques Vendroux et Jean-François Pérez. La totalité de l'interview, ce sera demain soir sur Europe 1. Platini qui parle de tout et qui revient notamment sur le drame du Heysel en 1985 qui avait fait 39 morts et plusieurs centaines centaines de blessés dans le stade bruxellois du Hesel. Un mur et un grillage avaient cédé sous la pression des mouvements de foule. Premier drame du hooliganisme dans le football européen. Michel Platini, marqué à jamais, lui qui jouait à l'époque à la Juve qui affrontait ce soir-là Liverpool.
Oui, c'est un drame de vie même, hein, plus qu'un drame de footballeur, c'est un drame de vie, oui, oui. Vous savez Jacques, quand des gens viennent vous voir dans un stade et qu'ils rentrent jamais chez eux, ça fait du mal. On joue pas au foot pour ça. C'est et pas c'est... le film qu'on arrivait de faire quand on était petit.
Et c'est un film que vous vous repassez presque, ça va faire 40 ans dans quelques années bientôt ?
J'y repense, c'est pour ça que quand je vois ce qui se passe dans les stades, quand je vois que les supporters ils veulent être debout dans les stades, méfiez-vous, faites attention. Comme je ne suis plus dans les instances. Moi, les supporters, ils venaient me voir quand j'étais président de l'UEFA. Les supporters, on avait une association des supporters européens. Ils voulaient être debout dans les stades. J'ai dit, moi, tant que je suis président, vous ne serez pas debout dans les stades. Moi, j'ai connu des drames. J'ai connu des morts. Beaucoup de morts à l'époque. Donc, peut-être après moi, vous ferez ce que vous voudrez. Mais pendant que je suis là, vous ne le ferez pas.
Voilà, de nous d'autres extraits de cette interview ce soir à 20h avec Jacques Vendroux et Jean-François Pérez sur Europe 1. 12h56, la météo avec vous Marlène Duray. Une alerte orange est en cours dans deux départements du Nord-Est. La neige s'invite dans le nord du pays ce soir. Hein.
Oui, on attend un nouveau front pluvieux et venteux aussi qui va arriver par le Nord-Ouest cet après-midi et qui va arroser généreusement la Bretagne, la Normandie, la Mayenne. Quelques flocons pourraient se mêler à la pluie sur les collines normande. En soirée, il va s'enfoncer dans les régions allant des Hauts-de-France au Pays de la Loire, avec déjà un petit peu de neige au nord de la Seine. Et lors de son passage dans les régions du Grand Est, eh bien, il va donner de la neige. Alors principalement entre les Ardennes et le Bas-Rhin, on attend 3 à 7 cm de poudreuse, jusqu'à 10 cm localement sur les hauteurs. Sachez que la Moselle et la Meurthe-et-Moselle ont été placées en alerte orange, alerte qui prendra fin à 6h demain matin. Pour en revenir à l'après-midi, un ciel variable s'installe sur le pays avec des averses, de la neige sur l'ensemble des massifs montagneux à basse altitude. La Provence-Alpes-Côte d'Azur et la basse vallée du Rhône se démarquent en restant au soleil. Quant aux températures, elles se radoucissent à l'ouest. On atteindra les 13 degrés à Biarritz, 12 à Bordeaux et à Cognac, 11 à Nantes. Prévoyez 9 degrés à Caen et à Toulouse, 8 à Paris. Mais on ne dépassera pas les 4 degrés à Lyon et les 3 degrés à Grenoble et Besançon.
Merci beaucoup Marlène. Dans un instant, c'est La France bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1.